Et je reçois Vincent Payon. Bonjour Vincent Payon, vous êtes philosophe, homme politique. Vous publiez Liberté, Égalité, Fraternité aux éditions du Seuil. Je m'en veux beaucoup de vous avoir fait entendre cet extrait du Superfell sur le PSG, parce que je vais passer évidemment du Superfell du PSG au PS. On va juste enlever une lettre et je vais vous demander de réagir à cet autre Superfell qu'on n'a pas encore tourné, comme on dit, qu'on n'a pas encore réalisé sur France Culture, mais néanmoins votre sentiment sur l'état aujourd'hui du PS.
Bon, d'abord, la comparaison vous appartient, mais je ne sais pas que les transferts ou les financements du PS soient équivalents à ceux du PSG. D'ailleurs, je suis pas sûr non plus qu'il y ait le même engouement quand on voit le... Bon, ce que je crois, vous savez, on est un peu dans une période, je dirais, romaine. Hein, mort ou vaincu, ça dure quelques mois, les choses s'inversent. Et donc en ce moment, et depuis un moment, je dois dire, les socialistes sont un peu moqués. Je crois qu'on a tort de le faire, profondément tort, et ça marque plutôt une certaine un climat général que, personnellement, je n'apprécie pas beaucoup. Pourquoi ? Bah parce que il me semble quand même que les socialistes, dans l'histoire de France, hein, du Front Populaire, après la guerre de 45, en 81, à nouveau en 97, et même sous François Hollande, ont bien servi ce pays. Et de temps en temps, plutôt que d'être dans la facilité des commentaires, chacun se reproduisant, on devrait se souvenir, parce que ça concerne la vie des gens, ça concerne les retraites, ça concerne l'école, ça concerne la fiscalité, ça concerne... Bon, voilà... Maintenant, dans l'histoire de la gauche, il y a toujours des périodes comme ça, où on va plus mal, où on se divise, où on ne rencontre pas les populations, et puis il faut un peu de temps pour se refaire, pour se rassembler, pour proposer un nouveau projet. Et j'espère qu'après une phase évidemment difficile, hein, depuis les dernières élections, mais aussi pendant une période, une partie du quinquennat de François Hollande, eh bien, j'espère que les socialistes vont pouvoir à nouveau se mettre en situation d'aider le pays.
Mais alors, justement, dans le livre que vous publiez, Vincent Payon, Liberté, Égalité, Fraternité, vous revenez sur à la fois la confection de la trilogie républicaine et sur la manière dont celle-ci a été pensée, parce que nous vivons dans une république qui a été façonnée par des penseurs, souvent des penseurs de gauche, d'ailleurs, qui se réclamaient du socialisme. Et on est frappé devant ces figures, qui sont des figures extrêmement nombreuses, parfois oubliées. On peut penser à, par exemple... On a à la fois de Buisson à des gens comme Durkheim ou Fouillé, on a Littré, on a toute une série de portraits comme cela, Léon Bourgeois sur le solidarisme. On voit ces idées qui ont été tant utiles à la gauche et aujourd'hui on se dit qu'il n'y a pas une telle production d'idées.
Vous savez, c'est un problème majeur, c'est-à-dire qu'au moment où les choses se produisent, on ne les voit pas. Et à cette époque et à toutes les époques, cela a été comme ça. Aujourd'hui, si on prend des figures comme Jaurès, comme Jules Ferry, pour prendre un républicain beaucoup plus modéré, en réalité, de leur temps, ils étaient très contestés, maltraités. L'un a été assassiné, l'autre, il y a eu des tentatives d'assassinat. Donc une très grande violence. Donc très souvent, la géographie, on en fait des saints, mais c'est a posteriori. Donc je crois, vous savez, qu'il faut relativiser cela. C'est ainsi. Celui qui triomphe au moment, celui qui occupe, c'est pareil d'ailleurs dans l'art, hein, quand vous regardez. Si vous reprenez ceux qui étaient considérés comme des grands écrivains au moment... où ils écrivaient, la plupart sont oubliés aujourd'hui, et des gens qui étaient méconnus, qui étaient inconnus, sont devenus nos références. Donc tout ça n'est pas très important, je le dis d'ailleurs
au début. Vous pensez à qui ? Dans cette histoire donc de la trilogie républicaine, qui sont les penseurs de la République ? Parce que Léon Bourgeois, par exemple, aujourd'hui, est pratiquement oublié. Donc vous prenez Ferry, mais bon... Lui était un homme politique, Jaurès évidemment aussi. Qui sont ces hommes à la fois qui vous voudriez rendre justice parce qu'on les a oubliés, qui pourraient nous être utiles pour penser à la fois la démocratie aujourd'hui, qui pourraient être utiles également à la gauche ?
Je crois que la grande affaire, c'est que cette devise, liberté, égalité, fraternité, que tout le monde connaît, elle est au fronton des mairies, elle est au fronton des écoles, est en fait profondément méconnue. Et quand vous regardez, il y a très peu d'ouvrages, il y a très peu de travaux, il y en a quelques-uns, qui lui ont été consacrés. Or, qu'est-ce qu'elle indique, cette devise? Elle indique une doctrine précise, assez articulée, de ce qu'est notre République, ou plus exactement, de ce qu'elle voudrait être, puisqu'il s'agit de l'expression d'un idéal. Or, cette devise est très intéressante parce qu'elle ne correspond pas du tout, lorsqu'on lit ceux qui ont essayé de la penser, de la formuler, au récit qu'on fait traditionnellement de notre République, ou dans lequel, dans le fond, on oppose généralement, par exemple, la liberté et l'égalité. On se dit qu'il y a là une contradiction. Tout l'effort de la devise républicaine et de la République française, c'est d'essayer de dépasser cette contradiction, de montrer qu'il ne peut pas y avoir de liberté et de liberté de l'individu. C'est la France des droits de l'homme, donc une France libérale au sens politique le plus noble, sans qu'il y ait une égalité. Mais une égalité qui n'est pas simplement politique ou civile, les mêmes droits, le droit de vote, etc., mais aussi une égalité en termes de justice sociale. Et que cela repose en plus sur un élément supplémentaire qui permettrait de concilier cette liberté et cette égalité, qui est cette fameuse fraternité, qui ne nous renvoie pas à une fraternité du sang, des frères, ils sont souvent fratricides dans l'histoire, mais à une fraternité qui est la compréhension que nous partageons tous une même humanité, et précisément que sont nos frères, même ceux qui ne sont ni nos frères de sang, ni même nos frères de nation, puisqu'il y a un élément cosmopolitique, universel dans cette République. Et donc c'est essayer de restituer à notre histoire, à notre République, sa vraie doctrine. Pourquoi ? Mais parce que c'est un problème majeur pour une nation comme pour un individu de méconnaître sa propre histoire. C'est une souffrance, ça ne permet pas d'être à l'aise dans son présent, de s'engager dans son avenir. Et finalement, il y a dans l'histoire quelque chose qui est étonnant, c'est on réécrit toujours l'histoire. Vous le savez bien, il y avait un grand historien des sciences qui disait « rien ne change plus vite que l'immuable passé ». Et ce que j'ai essayé de faire dans cet essai, c'est d'essayer de restituer ceux qui ont formulé ou tenté de formuler, car elle pose aussi des problèmes, cette doctrine, et qui souvent, c'est un paradoxe mais intéressant, sont oubliés. La plupart de ceux qui ont formulé cette doctrine, je vais donner des noms, Pierre Leroux, Louis Blanc, Robespierre, sont soit oubliés, soit caricaturés, voire même moqués pour certains. Et donc, j'essaye de restituer ces débats et cet effort collectif de formulation de la doctrine républicaine.
Parmi les deux idéaux que vous avez cités pour traduire en quelque sorte l'aspiration de la République, de la démocratie française, à la fois les droits de l'homme, l'égalité sociale, on se dit qu'aujourd'hui, la France est très isolée. On a parlé dans le journal de 7h30 des élections en Russie avec la victoire de Vladimir Poutine, une victoire qui est entachée par des soupçons d'irrégularité, par une incapacité pour l'opposition de présenter ses candidats. Que pensez-vous de la manière dont les nouveaux régimes politiques s'organisent un peu à la surface de la planète ?
Le sentiment qu'on peut avoir par rapport, y compris à ce que nous avons vécu, c'est, mais nous le savions, que la démocratie elle-même, qui est la base, et ses droits de l'homme comme liberté de l'individu, non, c'est quelque chose de fragile à l'échelle de l'histoire. Très peu de temps. En France même, il y a eu des régressions par moment, il y a eu des oublis de notre devise, il y a eu des abandons d'ailleurs, pensons au pétainisme, on change de devise. Il y a eu des moments en permanence de contestation des procédures démocratiques qui garantissent cette liberté de l'individu et permettent de vivre collectivement, y compris avec des aspirations de redistribution, de justice et de fraternité, voire d'ordre international. Nous sommes dans un moment où incontestablement on le sent, voyons la Turquie, voyons la Russie, mais voyons d'autres pays, chez nous-mêmes. On voit bien qu'il y a une interrogation, on le voit au plan européen, c'est terrible, et on le voit au plan français, où moi j'entends beaucoup de gens, j'ai des conversations, des gens qui me disent « Et quand même, la démocratie, ça pose un problème, il faut un pouvoir vertical, il faut de l'autorité, les syndicats, le Parlement, tout ça sont des gênes. »
Quand on sait l'entendez chez qui, Vincent Peillon ?
Bah, je l'entends d'abord à longueur de journée dans les journaux, je l'entends dans les commentaires permanents des corps intermédiaires. Les journalistes, ceux qui faisaient l'opinion publique, vous savez par exemple, les journalistes le savent assez peu. En 1830, lorsque les premières sociétés républicaines se remettent en œuvre, elles disent il y a deux choses pour faire une démocratie. Il y a l'école. Et on voit bien, à l'instant même, sur les questions de harcèlement, on entendait l'éducation. Donc il faut, pour faire une république, faire des républicains. Ça va être le lieu de l'école. Et puis il y a ce qu'on appelle l'opinion publique ou l'espace public. Et ça, c'est les journalistes. Chez un certain nombre de premiers républicains, l'opinion publique, les journalistes, ce sont ceux qui sont l'équivalent du législateur de Rousseau dans le contrat social. Bon, quand on entend à longueur de journée des critiques contre, soit les enseignants, l'école, le Parlement, les syndicats, tout ça, ce sont des conquêtes, voire donc les journalistes, eh bien, on se rend bien compte qu'il y a une crispation démocratique. Mais c'est, quand vous regardez notre histoire, ce sont des respirations qui ont toujours eu lieu. Il y a des moments populistes, il y a des moments antidémocratiques en France. On a l'impression, et puis il y a des reprises, il y a des moments fondateurs où on revient davantage à nos valeurs qu'à d'autres moments. Entre un moment, prenons le vote des pleins pouvoirs à Pétain, il n'y a que 80 parlementaires pour ne pas les voter. Et puis, quelques années plus tard, nous avons les Jours Heureux, le Conseil National de la Résistance. Donc la France, elle est, et comme chacun d'entre nous aussi, où il y a des tendances, en chacun d'entre nous, à l'abaissement et à l'élévation. Il y a des moments où c'est l'abaissement qui l'emporte, et puis il y a des moments où on se reprend. Dans cette période, je pense que même la démocratie est inquiétée comme valeur dans l'esprit d'un certain nombre de gens.
Mais est-ce que, par exemple, le discours de l'exécutif aujourd'hui, d'Emmanuel Macron, est-ce que ce discours vous inquiète, Vincent Peillon ?
Non, moi je ne suis pas, et vous l'avez bien noté par ce livre, je ne suis pas à vouloir désigner des individus ou commenter l'action du moment.
Mais quand vous dites par exemple, il y a une demande de verticalité, un oubli des corps intermédiaires, on pourrait par exemple se dire que vous êtes en train de décrire une partie du langage présidentiel ?
Non, parce que je pense, en tout cas avec 30 ans d'expérience maintenant, je pense que souvent les hommes politiques qui ont l'impression de faire les choses, ne sont que le reflet ou l'expression ou le symptôme de la société qu'ils dirigent, plutôt que les guides. Et donc ce qui m'intéresse plus que de rester dans ce jeu politique que je connais, qui est de dire un tel, etc., c'est d'essayer de comprendre plutôt quelle est la pensée de tous qui conduit à ça. Vous savez, souvent, d'ailleurs, présidents sont élus comme ils sont plus le reflet ou le symptôme d'un état de la société et d'un état qui est aussi évidemment du point de vue intellectuel et moral que ceux qui l'organisent. C'est ce que dit très bien Louis Blanc et que j'ai mis ça en exergue. Les politiques s'agitent beaucoup et se donnent le sentiment d'organiser les choses. En réalité, souvent, ils ne sont que l'expression de mouvements plus profonds. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, vous le voyez bien, que parfois, et c'est le cas dans notre pays, hein, vous savez, le vrai problème de notre pays, il n'y a pas deux présidents qui ont été réélus. Il n'y en a pas un. Les deux qui ont été réélus, c'est Chirac et Mitterrand. Mais vous aurez noté que chaque fois, ils étaient dans l'opposition quand ils ont été réélus. C'est le vrai problème français. C'est le problème qui va se poser à Emmanuel Macron comme aux autres. Bon. Or ça, c'est un problème qui ne les concerne pas eux, contrairement à ce qu'ils pensent, qui nous concerne nous. Et être républicain, je vous le rappelle, c'est quelque chose qui est trop oublié. C'est pas simplement de dire le pouvoir, c'est les autres. En République, chacun de nous est le pouvoir. Le pouvoir ne repose que sur l'opinion.
Mais alors, est-ce que notre modèle, justement, est transposable ? Le sous-titre de votre livre, c'est sur le républicanisme français. Lorsqu'on voit, vous avez évoqué la Turquie, la Russie, est-ce qu'il nous faut juger ces pays à l'aune de notre système politique, ou bien est-ce qu'ils sont à même de développer, enfin, la réponse est oui, évidemment, pour développer une tradition politique propre, mais je veux dire, est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, que notre conception de la démocratie nous soit propre, unique, et que ces pays, avec leurs tendances, comment dirais-je, antidémocratiques ou totalitaires, ou vous qualifierez d'ailleurs vous-même ces régimes, eh bien, puissent poursuivre dans un chemin qui est très éloigné de notre conception de la démocratie, Vincent Peillon?
Ça fait partie aussi de ces respirations dont on parlait. Il y a des moments, grâce à Dieu, où on se dit nous allons faire une société des nations, nous allons faire l'ONU, nous allons trouver un droit puisqu'il repose sur une commune humanité qui va concerner tout le monde. Et puis il y a des moments où il y a des replis nationaux et on se dit chacun est différent, on va faire différemment, etc. En tout cas, ce qu'il faut savoir, parce que c'est souvent assez méconnu et pas très bien compris, c'est que notre devise républicaine, et donc aussi notre tradition, elle est de penser que cet idéal-là vaut pour plus que la France. Et vous savez d'ailleurs qu'au moment de la Révolution française, on donnait la nationalité à ceux qui se reconnaissaient dans ces valeurs. Ça a pu être des Polonais, ça a pu être des Américains, ça a pu être... Bon, il faut que vous sachiez aussi, je vais prendre deux exemples. Le plus grand philosophe politique américain, John Rawls, il traite cette, dans la théorie de la justice, cette devise, il dit, c'est aussi notre idéal. Si vous prenez un penseur juif comme Franz Rosenzweig, si on regarde dans l'étoile de la rédemption, il l'évoque aussi. Donc les Français ont cette devise, mais cette devise va au-delà d'une devise nationale. Et ce que nous appelons patriotisme, parce que vous savez, tous les mots sont menteurs. J'entends Madame Le Pen dire patriotisme. Mais le patriotisme en France, c'est le contraire du nationalisme, historiquement. Et ça veut dire, bien entendu, aimer sa nation, mais en tant qu'elle est une nation de droit, et donc qu'elle repose sur des principes qui valent au-delà des frontières, au-delà d'un territoire, au-delà d'une langue.
Vincent Peillon, on vous retrouve aux environs de 8h20.